Écoute, Benoît, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui. Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale.
Antoine Robitaille.
Il y en a un qui m'a écrit hier, il m'a dit que j'étais nazi.
Antoine a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime.
Philippe Vincent Foisy.
Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi.
La rencontre.
Offenser qu'on ose poser une question et remettre en question
ces décisions. Écoute, j'en revenais
plus. Rien dire, on peut plus rien
on
dire.
On peut plus rien dire. Surtout dans la rencontre.
Rencontre Robitaille Foisy.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Là, maintenant, Antoine, on a parlé du rock Rest of Canada, mais là, tu veux parler du Montréal et du rock Rest of Québec?
Ben, c'est ce qu'il y a, hein. Le reste du Québec contre Montréal, c'est cette élection-là. C'est un gouvernement qui a seulement une seule élue sur l'île, Chantal Rouleau, qui peut parfois bien porter son nom. Un rouleau compresseur. Oui, on est à deux avec Anjou, c'est vrai, t'as raison.
Oui, oui.
Mais c'est une nouvelle de ce matin, donc quand je me couche à 2h30, je suis un petit peu en retard. Oui, voilà. Mais t'as raison,
Vincent.
C'est là.
c'est ça.
Combien d'heures avez-vous dormi cette nuit, vous deux? Pas ensemble, là, chacun de votre bord.
J'ai dû dormir 4-5 heures,
oui. Ouais.
3,
ouais.
Mettons, là.
3, hein, Vincent? Parfait, on va faire ça vite, t'as le temps couché.
Ah, il me reste un
petit peu. Non, mais moi, je regardais ça, puis je me suis dit, si M. Legault n'avait pas fait toutes ces déclarations invraisemblables sur l'immigration, je pense qu'il aurait pu aller conquérir des sièges à Montréal. Et tu sais, le ton qu'il avait hier soir,
c'est tout.
Où est-ce qu'il était pendant la campagne, ce ton-là?
Sa priorité, c'était l'éducation.
À tous les conseillers que j'ai vus hier soir, je dis, où il était? Qui c'est qui a écrit son texte hier soir? Où il était pendant la campagne? Pour à peu près 2 jours, là, la fin de la campagne, on était à Sherbrooke, dernier point de presse. Là, il se met à parler rassembleur. Ah oui? Et tu sais, pendant tout le reste de la campagne, il a tenu des propos divisif, il faut le dire. J'aime pas bien ça dire ça, parce que c'est sûr qu'une élection, il faut se démarquer, il faut diviser. Mais c'est lui, lors du premier débat à Radio-Canada, là, cinq chefs, une élection, il a parlé de Montréal contre Québec, Montréal contre Rouen, et il a pas arrêté, là, après ça, de faire des déclarations. Puis, à la fin, il joue le gars rassembleur. Écoute, moi, je pense qu'il aurait performé beaucoup mieux s'il avait tenu ce discours-là. Puis il n'aurait pas perdu tant que ça.
Mais t'en veux combien, là? 90, il me semble que c'est bon, Philippe-Vincent.
Oui, non, je veux dire, c'est super. C'est juste qu'on s'attendait à plus. Puis chez les libéraux, où j'étais hier, c'était ça le message. L'immigration a mobilisé du monde, l'immigration a motivé du monde, puis l'immigration a sauvé la peau de Dominique Anglade, là, alors que c'est vrai que s'il avait été positif... Tu sais, puis je regarde l'opposition, le problème, c'est que la CAQ est devenue cet astre énorme, qui a un potentiel d'attraction énorme, qui va chercher du monde au Parti conservateur, qui va chercher des péquistes, qui va chercher des libéraux et qui va chercher du monde, peut-être un peu moins chez Québec solidaire, mais quand même. Donc, à un moment donné, s'il avait été beaucoup plus positif, il aurait pu être cette grande coalition à 100. Mais est-ce que vraiment M. Legault le souhaitait? Puis quand Antoine dit divisif, tu sais, il y a divisif dans le sens de amener à débat, faire des politiques qui ne plaisent pas à tous, mais qui sont débattables. Puis il y a divisif, simplement diviser pour diviser, comme M. Legault a fait, quand il dit que les intellectuels ont une forme électorale, quand il parle de monde de Montréal, quand il y a sur plusieurs sujets, les immigrants, c'était il y a eux, il y a nous on est les bons, nous on sait ce qu'il faut pour l'avenir du Québec et tous les autres veulent tuer la nation parce qu'ils veulent augmenter les seuils d'immigration. C'est ce genre de discours qui n'aidait pas le débat public, alors qu'à la fin, tu dis, ben là, attends, il faut
que le discours traditionnel du nationalisme québécois qui était le discours de Gérald Godin, notamment, de René Lévesque, c'est-à-dire que le français, il sert de creuset. C'est pas les francophones qui ont un espèce de trait génétique francophone qui se défendent contre les autres. C'est l'impression qu'on a eue avec Monsieur Legault. En plus, il y avait l'odieux de nous reprocher dans tous les maudits points de presse, hey, vous me posez juste des questions sur l'immigration puis le troisième lien. Dans les entrevues aussi. Hey, je peux te donner nombre de points de presse où c'est M. Legault lui-même qui abordait cette question-là. Hey, on était à Chibougamau, puis avec des élus, il y avait des élus de la place qui étaient là. Il a parlé du troisième lien à Chibougamau.
Mais il ne se rend pas jusque-là.
J'ai pas compris. Après ça, il vient de trancher.
Mais Antoine, le troisième lien se rend à Chibougamau.
Je te dis, je comprenais pas. Il a parlé d'immigration aussi. et c'est lui qui a abordé le fait que certains chroniqueurs considéraient comme racistes ou xénophobes certains de ses propos. À Chibougamau, il aurait dû parler des problèmes de chasse. Il était pour une fois dans le nord du Québec. C'est rare que le premier ministre y va. Il y a des problèmes. Dans la chasse là-bas, il y a les Jamaïciens.
Qu'est-ce qu'on fait avec le mode de scrutin, là? Parce que là, il y a des revendications partout.
Je veux te faire écouter un intellectuel en 2018. Il s'intéresse
on a besoin que plus de personnes possibles travaillent ensemble. Je pense que le mode de scrutin proportionnel mix aide justement à ce qu'on travaille davantage ensemble, que ce soit possible de le faire, qu'il n'y ait pas un gouvernement qui a été élu par une minorité de Québécois qui soit capable de prendre des décisions pour une majorité. Donc, moi, je pense que ça va dans le sens à long terme du mieux-être des citoyens québécois. Moi, je pense qu'un gouvernement qui ne respecterait pas cette volonté-là des citoyens se retrouvait en difficulté à moyen terme.
Eh bien, et voulez-vous écouter ce que Sonia Lebel me disait ce matin en entrevue là-dessus? Donc.
Oui,
c'est pas dans les intentions à court terme. On a beaucoup de défis, puis je pense qu'on peut démontrer. Là, je le dis, commençons par démontrer qu'on est capable de collaborer sur les enjeux prioritaires.
Mais ça se fait comment?
Les intérêts des Québécois.
C'est comment? Priorité.
Hey, Pierre Bernard Drinville qui disait, ah ben là, il y a eu la pandémie, on peut quand même pas changer le mode de scrutin. Ah oui? Proportionnel mix, on pogne plus la COVID?
Hein? Ah, il n'a pas quoi, dit, lâchez-moi avec le mode de scrutin. Ouais. Il n'a pas dit ça, non?
Oui, c'est ça, mais c'était quasiment ça.
Mais le comment, à Sonia Lebel, la première vraie question, c'est est-ce qu'ils vont reconnaître, avec les libéraux, que Québec solidaire et que le Parti québécois, ce sont des partis reconnus en Chambre? Leur donner des budgets, leur donner des temps de parole alloués, parce qu'en ce moment, ils n'ont pas 12 députés et n'ont pas 20 % du vote. Donc, techniquement, ils ne sont pas des partis reconnus. Donc, si tu veux tendre la main...
Ça change.
Mais tu sais, est-ce que ça change quand tu as deux partis qui veulent en profiter? Parce qu'ultimement, les libéraux n'ont aucun avantage politique sauf qu'être gentleman et fair game là-dedans.
Mais ça dépend qui conseille Mme Andelade. Hein?
Les libéraux...
Si c'est l'ancien libéraux gang,
ils ont
qui
perdu,
revient...
Combien de fois ils ont perdu les libéraux en 2018 et 2022? Ils ont perdu 440 000 voix. Hein? Puis Éric Duhaime, lui, il en a gagné 445 000. Et lui, je veux dire, il n'y aura pas de... Ben oui, il n'y aura pas de place, lui.
Ah oui.
En tout cas, il va en réclamer une. Moi, j'ai entendu tantôt, il a dit, je veux pouvoir venir faire des points de presse à l'Assemblée nationale. Je pense pas qu'il va pouvoir. C'est une règle, ça, c'est une règle qui bougera pas, là. Faut que tu sois élu, quand même.
Bon, on peut faire une petite tente, là, dehors, ou mettre deux camions.
Mettons qu'il va travailler fort à débaucher un ou une élu caquiste déçu ou péquiste QS. N'importe quoi, n'importe qui. On a vu qu'il était prêt à prendre n'importe qui.
Okay, si vous étiez à la place d'Éric Duhaime, qui viseriez-vous pour aller pour recruter?
Ben, t'attends que
le
cabinet se fasse.
Il faut attendre la formation du Conseil des ministres.
Exact.
Les
ambitieux qui pensent là, qu'ils ont une place au cabinet là, parce qu'eux autres, dans leur comté, sont big puis qu'on leur a dit qu'ils étaient bons. Puis que là, ils réalisent que des bigs autour de la table, il y en a un peu plus, là, mais qui sont un peu conservateurs. Puis que dans leur circonscription, Éric Duhaime les a chauffé un peu. À un moment donné, il va falloir aussi que le gouvernement de la CAQ montre comment ils vont être le gouvernement de tous. Là. À la fois le gouvernement de Québec solidaire et du Parti conservateur, à la fois celui des libéraux et du Parti québécois. Bonne chance là, d'en essayer de mettre un gros carré dans un cercle. Ça va être difficile. Mm-hmm. En même temps, c'est ça. Ils voulaient un mandat fort, qu'ils nous montrent pourquoi et à quoi ça sert.
Mais quel ton rassembleur hier? Et tu sais, des phrases comme « Oui, j'entends le message des jeunes ». C'est sûr qu'il n'est pas élu par les jeunes.
Mais
c'est
pas
juste Montréal.
Éric Duhaime peut pas aller chercher... Il pourra pas aller chercher quelqu'un qui vient juste de se faire élire, là, puis de traverser, puis de dire tout à coup, je suis un conservateur.
Ça va prendre quelques années. Si Éric Duhem est patient, moi, je pense qu'il y a à un moment donné un élu qui va tomber dans son escarcelle.
Un an et demi, là, c'est fort probable. Là, quelqu'un de déçu, puis qui met de la pression dans sa circonscription, puis il se passe des choses, puis des projets de loi pas contents, puis budget trop dépensier, machin. Allez écouter aussi mon chef d'Éragi ce matin qui commente la débandade libérale. Et sa plus grande critique, c'est de dire on a mal vendu notre vision et notre programme parce qu'on a passé trop de temps à critiquer. Et quand je lui pose la question, OK, ben, quelle est votre vision? Il dit, François Legault est contre l'immigration et divise. C'est comme un moment d'entrevue où je me dis, il était comme pas prêt à avoir le deuxième coup d'échec là-dessus. Puis ça m'a pris trois questions pour qu'il me dise que oui, Dominique Anglade devait rester. Mais
il t'a pas sorti le projet ECO toujours?
Ben, un petit peu. C'est jamais
mal. On a l'impression qu'il y a un sniff de l'hydrogène.
Non, mais ce matin, j'entendais le point de presse de Paul Saint-Pierre Plamondon qui disait que financièrement, son parti est en très bonne situation, que les dons s'accumulent, que les dépenses de cette campagne étaient déjà payées.
Ah ouais.
Mais ça s'est pas traduit en siège.
Éric Duhem a rempli le centre Vidéotron, là. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, c'est des partis de militants motivés, de militants mobilisés, mais qui ne se traduisent pas dans le vote général, malheureusement.
Éric, c'était le hall du centre Vidéotron, par contre, une petite précision.
C'était les toilettes du centre Vidéotron.
Moi, ce qui me fait écrire que je tiens, en tout cas.
Il y a une chose que je veux souligner, là. Tiens, le mode de scrutin, là. J'entendais tout à l'heure ton politologue qui disait, j'aime mieux avoir un mode de scrutin qui permet des gouvernants de prendre des décisions. Ben, je m'excuse, là. Le projet de loi 39, il est écrit par qui? Par Sonia Lebel. Il est disponible. On peut aller voir. Qu'est-ce que ça donnerait? Radio-Canada, ce matin, a fait une projection avec les chiffres d'hier soir.
Mm-hmm.
La CAQ aurait quand même 74 députés, là.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Puis avec les chiffres de 2018, il y en aurait 67, je crois. Et donc, il serait largement majoritaire dans les deux cas. Donc, on peut imaginer des modes de scrutin un peu fous comme Israël, où on dit le pourcentage doit être absolument égal entre les votes et les sièges. Ça donne une prime aux partis extrémistes, d'où, moi, je pense, en partie, la guerre. Bon, mais tout ça pour dire que T'as des gouvernements qui sont pris par les bijoux de famille, par des partis extrémistes. Mais c'est pas le cas avec le projet de loi qui a été déposé par la CAQ. C'est là où on est allé le plus loin le progrès dans ce débat-là.
OK, avant qu'on se quitte, là, comment vous pensez que les Québécois, pour les quatre prochaines années, vont réagir devant un gouvernement si gros, si nombreux, et une opposition officielle si faible, avec quelques sièges ici et là, puis un qui a même pas de siège à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on va se tourner contre la CAQ? On n'aime pas ça, les bullies puis les...
Ça se peut, parce que, tu sais, si à un moment donné, le François Legault de campagne revient vite, il risque d'y avoir un problème. Après ça, ça reste que lui, son avantage, c'est d'être le centre. Les gens aiment le centre, les gens veulent être au centre, et il représente ce centre-là dans lequel beaucoup de Québécois se reconnaissent, et beaucoup de Québécois qui vont voter, qui ont un âge plus avancé que les jeunes qui ne vont pas voter, les 18-34, se reconnaissent dans François Legault, se reconnaissent dans ses propos qu'on a qualifiés de divisifs. Moi, les courriels que j'ai reçus après les propos de Jean Boulay pour me dire à quel point Jean Boulay avait raison, j'ai fait, OK, oui, c'est ça. Il parle aussi à une base comme ça, qui pense qu'il a raison, même s'il ne dit pas des vrais chiffres.
Bon, très bien. De toute façon, on va en reparler.
On a le temps.
Jusqu'en juin prochain, on va en parler. Merci à vous deux. À demain.
Puis l'autre après. Puis après. Salut.